Ce mardi 9 octobre avait lieu une mobilisation unitaire à l'appel d'une intersyndicale CGT, Solidaire, FO, FSU, UNL, UNEF, FIDL. Elle a regroupé lycéens, cheminots, étudiants, retraités, enseignants, fonctions publiques et bien d'autres. À Lille, plusieurs milliers de personnes ont manifesté contre la politique d'austérité, les réformes antisociales et la casse du service public. Quelques témoignages.
Alors, je m'appelle Swazi Closac-Meur, j'ai 24 ans, je suis secrétaire fédérale du mouvement des jeunes communistes de la Fédération du Nord. Ce qui mobilise aujourd'hui, c'est tout simplement contre la casse sociale de Macron. Il attaque partout, les vieux, les jeunes, les salariés, les fonctionnaires, nos camarades cheminots, tout le monde en prend plein sa gueule. Si le moment de l'unité vient pas maintenant, on va tous y perdre. Donc c'est pour ça qu'à la jeunesse communiste, on fait tout pour que la convergence soit réellement possible. Ce matin, par exemple, à l'université de Sciences Humaines de Lille, du coup l'ancienne Lille 3, on a organisé un meeting avec des camarades de la CGT de plein de secteurs. Il y avait des pompiers, des profs, enfin beaucoup d'autres secteurs, je ne me souviens plus exactement la liste. Donc en fait, pour expliquer aussi aux étudiants qui ne restent pas dans leur microcosme, parce que enfin, moi je ne suis plus étudiante depuis pas mal de temps, mais pour leur montrer que la convergence est nécessaire et leur montrer que bah, plus tard, même s'ils ont un diplôme finalement, on va avoir quoi ? On va avoir du temps partiel, surtout les femmes. On va avoir du temps partiel, on va avoir des emplois précaires, ils vont vouloir nous repasser des contrats pourris. Dans le meilleur des cas, à 25 ans, on aura le RSA et ça sera encore plus bas. La baisse des APL, tout ça. Et en fait, on travaille tous les jours à ça en ce moment. Et là, je suis très contente parce que la manif à Lille, il y a pas mal de personnes, il y a pas mal de jeunes. Pour moi, c'est le début d'une belle mobilisation, à mon avis.
Alors tu parles du début, mais la mobilisation, elle avait déjà commencé avant les vacances. Fin juin, elle s'était un peu éteinte. Qu'est-ce qui pourrait laisser croire que là, on la rentrée sociale, il y a un regain, un renouveau, une vraie mobilisation, une vraie opposition qui se construise?
C'est vrai qu'il y a eu un temps mort avec les vacances, avec un peu la fin de la mobilisation bah, contre la sélection. On est toujours mobilisés dessus, mais c'est un peu compliqué. Bah, je pense que là, la mobilisation va continuer. Il y a bientôt le plan retraite qui va commencer à sortir. Il y a les impôts aussi, le prélèvement à la source. Les pompiers aussi en ce moment se mobilisent. Je pense que tout le monde se rend compte que la politique que mène le gouvernement Macron, c'est vraiment pas la politique qu'il faut pour les travailleurs et les travailleuses. Je pense que le mouvement va grossir à mon avis. J'espère, je touche du bois.
Ouais, et tu penses que justement le fait que les réformes touchent tous les secteurs du monde social, du monde professionnel, ça peut jouer pour mobiliser davantage de personnes ou est-ce qu'il va falloir plus que ça? Il y a encore beaucoup de gens qui... Bon, aujourd'hui, c'est très rouge, par exemple. Est-ce que ce n'est pas les autres aussi qu'il faudrait essayer de mobiliser?
Bah, c'est la priorité, c'est de mobiliser les personnes qui ne sont pas forcément encartées à la jeunesse communiste, au parti ou à la CGT. Et ça va être ça, le gros enjeu, c'est de montrer que ce n'est pas seulement nous, les communistes qui voyons le mal partout, mais que réellement les réformes que le gouvernement fait passer sont mal pour l'ensemble de la population. En réalité, je pense que Macron, toutes ses déclarations vont dans notre sens finalement, parce que toutes les dégueulasseries qu'il peut dire sur les retraités qui sont des privilégiés, les chômeurs qui doivent traverser la rue pour trouver du taf, je pense sincèrement que ça choque l'opinion publique aussi. Les gens voient très bien que ce mec, c'est pas... Il fait pas partie de notre classe sociale, quoi. C'est notre ennemi, donc je pense que les gens vont s'en rendre compte et s'en rendent déjà compte.
Il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui disaient bon, moi je vais pas, s'il n'y a pas de grève générale, je viendrai pas aujourd'hui parce qu'une journée comme ça, c'est perdre du salaire. Est-ce qu'il faudrait pas muscler en fait l'opposition?
Bah, muscler l'opposition par des black blocs, etc. Je ne pense vraiment pas. Faut pas oublier aussi que dans les manifs plan-plan, des fois c'est un peu chiant, mais il y a aussi des familles, il y a des enfants, il y a des retraités. Et c'est pas en mettant 20 excités étudiants en sociaux qui veulent se castagner avec les keufs que la jeunesse, que tout le monde va vouloir rejoindre le mouvement. Et là, l'enjeu, ça va être que tous les secteurs travaillent ensemble, vraiment. Qu'importe Parti communiste, France insoumise, CGT, Solidaire. Au bout d'un moment, on est tous dans le même camp et il va vraiment falloir qu'on s'entende et qu'on mobilise plus largement. Sinon, on va rester en bataille de chapelle et le mouvement va crever et ça sera de notre faute.
Je m'appelle Camille, je suis étudiante en prépa IEP à la fac de Lille 3 et je viens ici pour lutter contre la sélection et les réformes qui peuvent être mises en place par le gouvernement actuel.
La sélection, elle est en place depuis cette rentrée. Comment ça se passe ?
Bah, pour moi, ça s'est bien passé, mais je pense que je ne suis pas là pour moi, je suis là pour les autres, pour ceux qui n'ont pas pu accéder à à la place qu'ils avaient demandé pour ceux qui n'ont pas pu être admis dans les filières qu'ils avaient demandé, pour tous ceux qui se retrouvent sans inscription, qui galèrent en ce moment pour se réorienter, et pour tous les gens qui vont ensuite, par la suite, devoir repasser par cette plateforme de sélection de Parcoursup qui nous a amenés ici. Donc, voilà.
Est-ce qu'il y a une mobilisation qui s'organise actuellement dans les facultés, dans les universités ?
On essaye de lutter, du moins ici, moi en tant que militante au syndicat de l'UNEF, on essaye de lutter contre cette sélection, on essaye de faire en sorte de faire avancer les choses en défendant tout le monde, surtout en prenant l'avis des étudiants pour justement créer ces mobilisations qui nous mèneront ensuite à une plus grande ampleur dans la mobilisation étudiante, et j'espère que ça va continuer.
Jusque-là, les cheminots, les manifestations interpro, intersyndicales qui ont eu lieu, elles n'ont pas réellement porté de fruits, quoi. Le rouleau compresseur continue d'avancer. Est-ce que là, je sais pas, est-ce que ça se présente d'une nouvelle manière en cette rentrée ?
Je pense qu'il faut continuer et que tout le monde est encore prêt à aller de l'avant et à se battre contre toutes les réformes qui peuvent être faites. Et je pense qu'il faut qu'on continue et que le mouvement va reprendre, j'espère.
En gros, maintenant qu'on a vu ce que c'était le désastre de Parcoursup en direct et qu'on y a assisté officiellement, je pense que les choses vont changer maintenant parce que les étudiants, ils ont compris, les lycéens, ils ont compris, les parents de ces lycéens ont compris, et maintenant ça devrait bouger un peu plus que l'année dernière.
On sait pourquoi les gens se mobilisent. Est-ce qu'il y a la question qui se pose de comment ?
Nous, en fait, ce qu'on fait à l'UNEF, c'est qu'on va mobiliser sur les universités, évidemment. Et en fait, il faut faire surtout un travail d'information en amont des manifestations, ou juste un travail d'information constant. On va mener des campagnes, on sera diffuser des tracts, faire des interventions en amphi pour prévenir tous les étudiants. Et on fera passer le mot sur les réseaux sociaux. Et déjà, ce travail d'information, en fait, il est super important parce que quand les étudiants, ils savent pas ce qui se passe, ils vont pas se mobiliser. Et ensuite, il faut les motiver à se mobiliser avec nous, les inviter à aller en manifestation, leur expliquer pourquoi c'est important.
Je suis étudiant en sciences politiques à Lille 2, en deuxième année. Donc je suis ici plus particulièrement pour la cause étudiante et universitaire. On estime qu'à l'université on manque de moyens au niveau des profs, on manque de chargés de TD, ils sont dans la précarité pour la plupart d'entre eux, et ça joue sur notre condition d'études aussi.
Elle s'organise comment la mobilisation en cette rentrée ?
On veut juste continuer à faire entendre notre voix par rapport à ce projet qui est passé malgré l'année dernière les fortes mobilisations. Le gouvernement ne nous a pas entendus. Donc on continue à se mobiliser pour lutter même plus globalement contre ce système un peu trop autoritaire à mon goût, en tout cas, de ce gouvernement.
Cette première mobilisation de la rentrée a subi en amont des critiques quant à son mode d'action inapte pour certains, qui penche pour la grève générale à créer un rapport de force contre le gouvernement. À Lille, la manifestation a aussi été émaillée par quelques tensions entre organisations syndicales et un groupe apparenté Black Bloc, le mode d'action violente en moins, qui a pris la tête du cortège, manifestant ainsi une attitude de défi vis-à-vis des habituelles têtes de gondole de la mobilisation syndicale. Faute d'une méfiance des médias, d'un refus des porte-parole, d'une culture de l'anonymat, aucun d'entre ces jeunes masqués n'a souhaité s'exprimer à notre micro.
Alors moi, je ne fais pas partie de ce genre de groupe et je pense pas qu'il y aura de ce genre de groupe aujourd'hui. En tout cas, je peux comprendre certaines revendications de leur part, mais c'est impossible à définir. Enfin, je ne pourrais pas vous dire. Il y a des idées divergentes même au sein de ces groupes-là. Après, c'est plus contre un système global, on va dire, je pense. Je ne fais pas partie de ces groupes, donc je n'ai pas vraiment la légitimité pour parler de ça, quoi. Après, d'un point de vue extérieur, en tout cas, ça me dérange pas de voir ce genre de groupe. Je pense que ça peut amener d'autres moyens, même enfin, plus participatifs que pour se mobiliser. Et peut-être ça peut permettre peut-être de nous faire entendre plus facilement, je sais pas. Après, ça sera à voir.
Est-ce que tu peux commencer par te présenter et me dire ce qui te mobilise ?
Alors, moi, c'est Delphine Silva. Je suis agent de restauration au CHRU de Lille. en restauration. Et ce qui mobilise, c'est la maintien des services publics et le combat pour les retraites et pour le bien des salariés. Maintenant, c'est l'humain après et l'argent d'abord, quoi. Je ne sais pas comment dire trop la situation.
Est-ce que tu as participé à d'autres manifestations dans l'année ? Ça reprend là en septembre. Est-ce qu'il y a de quoi avoir de l'espoir, de réussir surtout à faire fléchir le gouvernement ?
Après, l'espoir, je pense qu'il faut le garder. Hein. Sinon, on ne serait pas où on est actuellement. Quoi. Maintenant, c'est sûr qu'on est frustré. On est frustré. Après, il y a des attaques de partout, notamment tout ce qui est l'action syndicale, les militants syndicaux. Après, l'année prochaine, il risque d'y avoir des nouvelles réformes, enfin une volonté politique de casser le code du travail par le biais des CHSCT qui veulent supprimer. On espère toujours qu'un jour ou l'autre, le français travailleur, comme tous les français, se mobiliseront et qu'on arrive à faire fléchir le gouvernement. Pour l'instant, c'est pas gagné, j'avoue, mais on garde espoir.
Qu'est-ce qui manque un peu dans la mobilisation ?
Rapport de force, hein, il manque le rapport de force, il manque, les gens, je sais pas dire comment, il manque la mobilisation.
Donc je suis Isabelle Bossement, je suis militante à la CGT du CHRU de Lille, je suis éducatrice spécialisée en psychiatrie en milieu carcéral, donc pour le CHU de Lille, je travaille en centre pénitentiaire. Et on est mobilisé aujourd'hui contre la politique générale menée par le gouvernement. Et puis, bien sûr, plus particulièrement sur les questions de l'hôpital public et de sa défense.
Est-ce que tu peux nous dire un mot sur le plan santé qui a été annoncé en septembre ?
Donc, le plan santé, il n'est pas du tout à la hauteur des enjeux et des enjeux immédiats qui se présentent à nous, puisque de toute façon, il ne répond pas aux problèmes urgents. Hein. Donc, sur la formation des médecins, puisque là, en effet, on a un véritable problème et un véritable basculement. En tout cas, moi, je vais parler sur le CHU de Lille, puisqu'on a un problème de démographie médicale qui est dénoncé notamment par la CGT et beaucoup d'autres depuis plus de 30 ans et sur lequel on n'a rien fait. Et on se retrouve aujourd'hui dans l'impasse avec une pénurie de médecins, donc de radiologues, d'anesthésistes. Et donc une impossibilité aujourd'hui pour le secteur public de répondre aux besoins de la population sur certaines disciplines, sur certaines spécialités. Mais qu'on ne s'en fasse pas puisqu'on a le développement des cliniques privées qui, elles, ont les moyens de recruter les médecins et ont les moyens de les former et de leur fournir les plateaux techniques. Et donc les cliniques privées sont en train de développer et de se développer sur les activités forcément rentables et parce qu'elles ont encore cette capacité à attirer les médecins. Donc le plan de santé, on va dire qu'aujourd'hui, c'est à peu près ça, sauf que le numerus clausus, ils le font sauter dans quelques années et le temps de former les médecins, de toute façon, on restera dans cette pénurie. Donc ce qui est proposé comme alternative et en attendant, c'est des dépassements de compétences. Donc ce sont les infirmières de pratique avancée, ce sont des personnels auxquels on va donner des compétences médicales qu'elles ne sont pas censées avoir. On a entendu parler des assistantes médicales qui sont des espèces d'alternatives à l'infirmière. Donc en fait, on est en train de déstructurer tous les métiers de l'hôpital pour répondre à un problème urgent qui était tout à fait prévisible. Donc il faut croire qu'on a eu 30 ans d'incompétence quand même au ministère de la Santé pour en arriver à ça et qu'aujourd'hui, il n'y a toujours pas de réponse à la hauteur. Donc aujourd'hui, on a quand même toujours un problème sur les urgences qui fonctionnent par crise. Donc la crise des urgences, on l'a connue l'hiver dernier, on l'a connue cet été et donc on aura de toute façon des périodes cycliques avec les épidémies qu'on n'arrive même plus à absorber. Donc la question, par exemple, des médecins urgentistes n'est toujours pas traitée. On a un plan de santé qui néglige complètement la question des urgences, alors que là aussi, on a une pénurie de médecins urgentistes. Le peu qui sont encore attachés au service public et qui souhaitent y rester, de toute façon, ils vivent des conditions de travail intenables. Donc ils finissent de toute façon par partir d'une manière ou d'une autre.
On reste dans un plan d'austérité budgétaire, avec l'annonce que c'est surtout sur le plan organisationnel que pourront être assurés des soins dignes et corrects.
Donc visiblement aujourd'hui en effet la seule chose qu'ils retiennent c'est que c'est pas un manque de moyens, c'est un problème d'organisation du système de soins et de santé. Donc on a eu ça fait déjà quelques années en fait qu'ils ont ce discours et cette idée. Et notamment sous le dernier gouvernement, ce qu'ils ont appelé le virage ambulatoire avec le tout ambulatoire, c'est-à-dire qu'on ferme des lits d'hospitalisation complètes pour mener de plus en plus d'interventions sur la journée, en fait. Vous entrez le matin, vous subissez l'intervention chirurgicale, vous rentrez chez vous le soir. Donc le virage ambulatoire, il était peut-être très bien, mais il ne fallait absolument pas fermer les lits d'hospitalisation complète en parallèle. Donc on n'est pas en train de compléter une offre de soins, on est en train de la transformer. Mais l'offre de soins n'est pas suffisante, de toute façon. Donc elle reste insuffisante et on se contente de la transformer et on vient finalement aggraver certaines prises en charge. Notamment pour les plus isolés et les plus précaires, c'est toujours pareil. Quand vous êtes hospitalisé, que vous subissez une intervention chirurgicale en ambulatoire, si vous avez une famille et les moyens qu'il faut pour vous accueillir à la maison le soir et dans les jours qui suivent pour vous prendre en charge et vous aider, très bien. Si vous êtes une personne âgée, isolée, qui n'a pas les moyens, bah vous rentrez chez vous le soir, vous restez seul. Et puis au final, quand il y a un problème, vous revenez dans le circuit des urgences. C'est aussi ça le problème des urgences de cet hiver.
Ça fait un moment que la mobilisation pour le service public dure, au moins toute cette année. Est-ce qu'il se pose la question de renouveler les formes de lutte ?
Ça, c'est déjà fait, en fait, à l'hôpital. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, à l'hôpital, alors on a toujours eu à l'hôpital public un droit de grève restreint qui est toujours organisé en fonction de la continuité de service qui est obligatoire pour le service public, donc la continuité des soins. Aujourd'hui, on a tellement peu d'effectifs à l'hôpital que finalement, quand vous déposez un préavis de grève et que les agents veulent se mettre en grève, ils sont tous assignés. Donc, on a tué le droit de grève à l'hôpital. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus de levier par la grève à l'hôpital. Il n'y a plus de levier par l'activité. Donc, il n'y a plus une grève qui peut gêner de toute façon. Donc, aujourd'hui, les formes de lutte à l'hôpital, vous pouvez l'observer partout. Elles évoluent et elles sont, à mon sens, dramatiques parce qu'on se retrouve avec des lanceurs d'alerte individuellement, puisque de toute façon, collectivement, on ne peut plus rien organiser. On se retrouve avec des gens qui sont obligés dans leur lutte de faire des choix extrêmes, notamment la grève de la faim. Donc voilà, le fait de tuer le droit de grève, il faut que la colère et que la détresse puissent s'exprimer autrement. Donc les gens prennent d'autres chemins. Et à l'hôpital, on se retrouve avec des mouvements très durs, très conflictuels, où les gens choisissent des solutions extrêmes, y compris la grève de la faim. Donc ça, c'est le résultat des autres formes de lutte. Donc je ne sais pas s'il faut réinventer des formes de lutte ou s'il faut se battre pour les formes de lutte qui ont déjà payé dans ce pays et qui sont les seules qui ne mettent pas en danger la santé et la vie des gens.
Pour terminer ce sujet, quelques extraits d'un reportage de notre confrère de Radio PFM à Arras, Nicolas Bunier, réalisé également le 9 octobre.
Robert Rocher, animateur du groupe France Insoumise Arras Sud.
Pourquoi manifester aujourd'hui ?
Contre toutes les mesures du gouvernement Macron, que ce soit au niveau des retraites, de la CSG, des suppressions de postes dans l'éducation nationale, de la guerre contre le fonctionnariat, contre les services publics, voilà, et pour l'ensemble des camarades, pour le secteur médical également, médico-social, qui est également touché par toutes ces réformes, et dans cette logique budgétaire qui découle tout simplement de Bruxelles. Le petit copiste de Bruxelles, c'est Macron.
Je m'appelle René Kidé, je suis co-secrétaire de la CGT Finances Publiques du Pas-de-Calais.
Pourquoi vous manifestez aujourd'hui ?
On manifeste parce que on est dans un système où finalement, aux finances publiques par exemple, on se retrouve avec des suppressions d'emplois, 22 000 suppressions d'emplois, avec des projets de fusion de direction, notamment avec le département du Pas-de-Calais et du Nord. Des suppressions de trésorerie, les deux tiers des trésoreries qui risquent d'être fermées d'ici 2022. Donc là, il y a un ras-le-bol total parce que on travaille à flux tendu. On a de moins en moins de personnel. Moi, dans mon service, on va être il y a 5 départs en retraite qui ne seront pas remplacés pour l'instant. Donc on est 12, moins 5, voilà. Et on a toujours plus de travail, on travaille tous à flux tendu, voilà.
Vous êtes en première ligne des réformes, avec notamment les réformes sur l'imposition ?
Oui, avec le PASS, la mise en place du PASS, que ce soit pour les services d'impôt des particuliers, mais aussi pour les services des entreprises. Là, on est en pleine période de stage, des stages qui évoluent au fur et à mesure, parce que C'est un peu le flou artistique dans cette réforme, notamment au niveau des agents des finances publiques, parce que il y a déjà eu plusieurs stages organisés et à chaque fois on n'a pas les mêmes formations, quoi, parce que ça évolue sans cesse. Bon. Donc nous, je travaille dans un service un peu entreprise, on est chargé de recouvrir le prélèvement à la source des entreprises. Bon, il faut savoir qu'avant, au niveau de l'impôt sur le revenu, on arrivait à recouvrir au moins 98% de l'impôt. Bon, là, au niveau du PASS et de la nouvelle réforme, on est appelé à recouvrir à peu près l'équivalent de 65%, qui est le taux de recouvrement de la TVA à peu près. Donc ça sera exactement la même chose, parce que les entreprises qui ne reversent pas la TVA, bon, sont les mêmes qui vont ne pas reverser le PASS, quoi. Mais ça, on le sait très bien. Et on n'a eu aucune formation pour l'instant en matière de recouvrement. Voilà.
Ah, si j'ai bien compris, vous allez bientôt vous-même partir à la retraite. Comment vous voyez l'évolution finalement de votre service, du service public de manière générale?
On se demande s'il y aura vraiment encore un service public de proximité dans les années à venir. C'est ça la crainte. Bon, jusqu'à maintenant, les usagers, ils avaient un service public pas loin de chez eux. Maintenant, ils avaient une trésorerie dans chaque commune. Il y avait au moins une trésorerie. Bon, maintenant, avec la suppression peut-être des deux tiers des trésoreries, il n'y aura plus rien d'ici 2022. Hein. Il n'y en aura pratiquement plus, quoi. Donc ça, c'est une crainte. On vient encore nous parler tout à l'heure des maisons de service au public. Au niveau de notre direction, ils vont organiser des maisons de service au public, mais il faut savoir que ces maisons de service au public, c'est la Poste qui dirige ça. On a plus d'usagers, mais des clients. C'est plus du tout la même chose.
Catherine Piécu, je suis secrétaire de la FSU.
Pourquoi vous manifestez aujourd'hui?
C'est un premier rendez-vous intersyndical, et ça c'est important, contre la politique du gouvernement Macron. Politique d'austérité, politique... en faveur des riches exclusivement, qu'on voit les attaques contre les retraités, qu'on voit les attaques contre les services publics, contre toutes les aides sociales, avec la perspective aussi d'une future réforme calamiteuse des retraites. On ne devrait même plus parler de réforme, on devrait parler de dynamitage complet, de la protection sociale, etc. Donc c'est vrai qu'on a l'impression de se répéter depuis un certain temps, mais parce que rien ne change. Tout va toujours dans ce sens de favoriser les gens les plus aisés, de détruire tout le tissu social, de détruire la cohésion sociale et de créer un pays à plusieurs vitesses. Et pour cela, c'est absolument pas acceptable. Donc moi, je suis enseignante, en particulier dans l'éducation. On voit vraiment les différentes qui se mettent en place. Faute de moyens, les classes sont extrêmement chargées, les horaires sont insuffisants, il n'y a pas les accompagnements nécessaires, donc les inégalités se creusent. Et pour nous, enseignants, en tout cas à la FSU, c'est absolument pas acceptable. Ce qu'on veut, c'est que chacun ait les moyens de réussir. Et ce que je dis là pour l'éducation est valable pour tous les autres secteurs.
La réforme des lycées, ça vous inquiète ?
Oh, c'est pire que ça. Là aussi, c'est un dynamitage, puisque un dynamitage complet de ce que l'on a connu comme organisation du second degré, en particulier du lycée depuis quasiment toujours, puisque c'est une suppression des séries complètes, un bac à la carte, avec énormément de contrôle continu, avec des épreuves à la carte, une multiplication des épreuves. Donc contrairement à ce qui est dit, pas une simplification, mais une complexification du baccalauréat, et un baccalauréat qui n'aura pas la même valeur selon l'endroit où on l'aura passé. Donc on est bien dans un système de discrimination qui va favoriser les élèves les plus avertis, donc les élèves issus des milieux les plus favorisés, et qui va pénaliser les élèves des classes moyennes et des classes populaires.